au 99.1 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Claude Fournel.
Lundi 27 novembre, 10 degrés actuellement au cœur de Lanaudière. J'espère que vous avez passé une belle journée. C'est Lanaudière PM avec Pierre Paquette. Il sera question du 30e anniversaire du référendum de 1995 qui a lieu cette semaine. On va raviver des passions. Avec nous aussi, Samuel Dussault, directeur du regroupement des organismes québécois pour hommes agressés sexuellement, a tenté de briser des tabous. Aussi avec nous, Guillaume Tremblay, maire sortant de Mascouche et président de l'UMQ. On va parler de la réglementation qui est un frein au développement économique des municipalités. Mathieu Lessard sera avec nous également, président du syndicat de l'enseignement du Lanaudière. Il sera question d'enseignants là, qui quittent la profession. Mais tout d'abord, les relations sont toujours tendues entre le Canada et les États-Unis en raison de cette fameuse publicité de l'Ontario là, diffusée aux États-Unis où on voit l'ancien président Ronald Reagan là, dénoncer l'imposition des tarifs douaniers. Cette publicité qui a été retirée des ondes aujourd'hui. Malgré tout ça, ben, Donald Trump ne décolère pas. Et François Morin en a discuté avec notre analyste politique, Mathieu Bélanger.
Ah, si seulement on connaissait la bonne stratégie, ça nous aiderait tellement dans le dossier des tarifs douaniers avec les États-Unis. Doug Ford a toujours eu, depuis le début de toute cette tension-là avec les États-Unis, a toujours eu une approche plus agressive, justement, de dire qu'il faut répliquer, faut mettre des tarifs. Rappelons qu'il avait lui-même déjà évoqué l'idée de couper l'électricité aux États-Unis, ce qui a fait beaucoup réagir, évidemment. Et là, c'est un autre exemple de moment où il prend l'initiative, Doug Ford, le premier ministre de l'Ontario, pour contre-attaquer avec une publicité qui cite des extraits d'un discours de Ronald Reagan, ancien président américain, concernant les tarifs dans lequel Ronald Reagan condamne les tarifs et plutôt un discours là, prônant le libre-échange. Ce qui a piqué au vif Donald Trump, on peut l'imaginer, d'autant plus que Ronald Reagan est encore vu du côté des républicains américains comme étant le président, le modèle qu'il faut suivre. Certains qualifient presque de demi-dieu comme image là, de l'importance qu'il a chez les républicains. Sa parole est presque parole d'évangile. Donc, en utilisant ça, c'est pour ça qu'on peut qualifier la publicité d'agressive. Le ton était tout à fait cordial, mais on remettait en face finalement des républicains que ce qu'ils adoptent maintenant comme posture est complètement l'inverse de ce qu'ils prônaient jusqu'à l'arrivée de Donald Trump, en fait. Jusqu'à l'arrivée de Donald Trump, rappelons-nous, les républicains étaient ceux qui prônaient le libre-échange et les démocrates étaient les protectionnistes, en fait. Ça fait beaucoup réagir Donald Trump à cause de cette situation-là, de se faire mettre d'en face les contradictions des républicains. Mais aussi, on peut imaginer à l'approche dans les prochains jours d'une décision de la Cour suprême sur certains des tarifs, Donald Trump dit cette publicité-là vise à influencer les tribunaux et c'est pour ça donc c'est de l'ingérence intérieure. C'est pour ça que moi Donald Trump je réagis. Évidemment l'objectif ici c'était pas tant d'influencer les tribunaux. D'ailleurs ça peut soulever une question. S'il a l'impression qu'on veut tant faire de l'ingérence intérieure, est-ce que c'est pas parce que les États-Unis, Donald Trump fait un peu de projection et lui-même parfois veut faire cela, se mêler de politique intérieure de d'autres pays. Mais bref, tout ça a réaugmenté les tensions. Et pour l'instant, à très court terme, c'est une erreur stratégique, à court terme, étant donné que là, les négociations sont rompues pour l'instant et que Donald Trump a annoncé éventuellement, puisqu'on n'a pas encore les détails, une hausse de 10% concernant les produits qui sont déjà tarifés. Je dis à court terme, erreur stratégique, parce qu'à moyen et long terme, on ne sait pas encore l'impact que ça va avoir. L'objectif, probablement, de Doug Ford, par la publicité, ce n'est pas tant d'influencer Donald Trump que d'influencer les électeurs américains avec ce qui s'en vient l'an prochain, dans un an, les élections de mi-mandat.
Mark Carney n'a pas réprimandé publiquement le premier ministre de l'Ontario et d'un autre côté, il fait preuve d'une certaine forme de prudence, se disant toujours ouvert à négocier.
Faut être prudent. On a vu que plusieurs des dirigeants mondiaux ont adopté un peu la même approche que Mark Carney, c'est-à-dire du moins publiquement flatter Donald Trump dans le sens du poil. On voit que cette stratégie est utilisée, mais les résultats, eux, sont pas toujours là, d'une façon ou d'une autre, que ce soit pour ceux qui lèvent du coude, justement, qui ont une approche d'un peu plus là de contre-attaquer par rapport à d'autres qui qui sont beaucoup plus doux. Il faut faire attention, Mark Carney peut servir de ça aussi pour dire, ben voyez comment que de la frustration, mais comment que moi, Mark Carney, je suis responsable et je tente d'améliorer les choses. La publicité, il y a quand même eu des discussions là entre Mark Carney et Doug Ford, ou en tout cas entre leurs équipes, pour que la publicité soit retirée après une dernière diffusion là, en fin de semaine, ce qui a frustré d'autant plus Donald Trump, qui a dit que qu'il fallait que ça soit retiré immédiatement. Donc, il dit que c'est la publicité frauduleuse. Encore une fois, ce qu'on voit avec Donald Trump, c'est que c'est pas à court terme qu'on peut savoir qu'est-ce qu'un geste ou l'autre peut avoir comme conséquence. C'est à beaucoup plus long terme. Et faut attendre de voir justement comment les négociations peuvent évoluer, même si pour l'instant, ça demeure très difficile.
Alors, parallèlement à ce qu'on vient de se dire, il y a Mark Carney qui procède à certaines annonces. On s'enligne pour des ententes, de nouvelles ententes avec de nouveaux partenaires. C'est justement ce qu'il visait pour se sortir un peu de la dépendance au marché américain.
Depuis son jour 1 comme premier ministre, Mark Carney insiste beaucoup sur le fait que le Canada doit être moins dépendant des États-Unis, développer d'autres marchés pour que justement, lorsque des soubresauts du côté américain, on puisse moins être affecté économiquement. Depuis le début, il a fait beaucoup de voyages en Europe pour développer les partenariats économiques avec l'Europe. Mais maintenant, il s'attarde aussi à l'Asie, qui est un énorme marché également, auquel on a accès relativement facilement par le Pacifique. Et c'est dans ce cadre-là, justement, qu'il y a des négociations de libre-échange avec divers pays. Un traité qui a été établi récemment avec l'Indonésie. D'autres discussions qui ont lieu actuellement pour un traité de libre-échange avec les Philippines. Mais certainement, le message qu'on veut envoyer aussi du côté de Mark Carney aux États-Unis, c'est ça sert à rien de trop tenter de serrer le citron, étant donné que si vous faites trop, ben on va justement plus aller ailleurs, finalement moins acheter de chez vous. Pour que nos relations continuent à être cordiales, ben faut qu'on ait une entente là qui a du sens avec les États-Unis. Il y a d'autres partenaires de danse. Et ces pays-là qui eux-mêmes cherchent d'autres partenaires parce que eux aussi sont frappés par les frais de douane américains, ils veulent avoir un certain bras de distance malgré tout avec la Chine, même s'ils font beaucoup avec la Chine. Donc, un autre partenaire comme le Canada peut être très intéressant pour les pays du Sud-Est.
C'était notre analyste politique, Mathieu Bélanger. Oui, d'ailleurs, le premier ministre Mark Carney, là, qui était du côté de la Malaisie aujourd'hui pour renforcer justement les liens commerciaux avec l'Asie. Et je crois que c'est là où il débouchait, vers l'Asie et encore aussi l'Union européenne, où on va devoir renforcer ces liens commerciaux. Dans un instant, Mathieu Lessard, président du syndicat de l'enseignement du Lanaudière.
Bonjour, c'est Kim de Joliette-Nissan. Profitez de rabais exceptionnels sur nos modèles 2025 pendant qu'ils sont encore disponibles. Kicks, Sentra, Rogue et plus encore. Venez voir pourquoi Nissan a été nommé marque numéro 1 pour la qualité des véhicules neufs par J.D. Power. Nos conseillers se feront un plaisir de vous accompagner lors de chaque étape du processus. N'attendez plus. Passez en concession dès maintenant au 800 boulevard Basse de Roque à Joliette et repartez au volant de votre nouveau véhicule. Joliette-Nissan, parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 en prix avec les trois jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer! As-tu ta carte? Bingo!
Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ à Saint-Édouard-de-Masquinongé, Quincaillerie Dépanneur 348, à Saint-Angèle-de-Prémont, Épicerie Jacques-Lessard, à Saint-Ursule-Dépanneur Marie-Lou, à Saint-Alexis-des-Monts, Dépanneur Beaussoir, à Saint-Paulin-Boucherie 4 saisons et à Louisville, Tabagie Grand-Père, dépanneur régional et dépanneur L'Escadre. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Êtes-vous à la recherche du bonheur ou le cherchez-vous pour vos parents? Aux Habitations Bordelot, on croise chaque jour des centaines de résidents heureux qui affichent leur plus beau sourire. C'est certainement parce qu'on a créé pour eux un milieu de vie chaleureux, sécuritaire et dynamique où il fait bon vivre. Et saviez-vous qu'en plus, nos cuisines adaptent leur menu selon les goûts de leur clientèle? Venez nous visiter et prenez le temps de vivre. Aux Habitations Bordelot, le bonheur est là. Visitez habitationsbordelot.com.
Diane Monette, audioprothésiste, est à votre écoute depuis 1997. Son équipe est à l'écoute de vos besoins afin de prendre soin de vous adéquatement. Elle vous offre des services professionnels ainsi que des produits audioprothétiques appropriés à la fine pointe de la technologie afin de répondre à tous vos besoins auditifs. Vous croyez avoir besoin d'un test d'audition? Le dépistage auditif est offert sans frais jusqu'au 31 décembre 2025. Diane Monette, audioprothésiste, 136 boulevard Antonio Barrette à Notre-Dame-des-Prairies. Prenez rendez-vous maintenant au 450-759-9939.
Imaginez un party de Noël au cœur de la nature, à l'auberge La Barrière. Pour environ 35 $ par personne, célébrez dans une atmosphère unique. Repas 3 services aux saveurs des fêtes, cocktails festifs, thématiques adaptées à vos goûts et à votre budget. Tout est pensé pour créer des souvenirs magiques. Pour une soirée sans souci, restez dormir sur place et profitez pleinement du moment. Réservez dès aujourd'hui au 450-884-5748. Auberge La Barrière, au 1000 chemins du Club de La Barrière, à Saint-Émilie-de-l'Énergie. Un Noël féerique vous attend.
Avec vous, partout dans la Naudière.
Saint-Zénon, Berthierville, Joliette, Terrebonne.
CFNJ, 99.1, 88.9.
Ici, la musique américaine, on le sent à Trump.
La Naudière PM, éducation.
16h17, on parle de plus en plus d'enseignements qui décrochent de la profession et ben qui en fait bien qu'il n'ait pas en main les données les plus récentes là au sujet justement du nombre de des membres qui ont quitté la profession. Le président du syndicat de l'enseignement du Lanaudière, Mathieu Lessard, confirme que le phénomène est bien ressenti chez nous dans Lanaudière et François Morin a eu cet entretien un peu plus tôt avec lui.
On est confronté depuis plusieurs années là à des circonstances qui, soit d'un point de vue de la démographie, hein, la population vieillit, donc évidemment le corps professoral n'en fait pas exception, avec également une complexification accrue des conditions de travail et d'exercice qui rendent l'exercice de la profession enseignante plus complexe. En raison de différents facteurs, que ce soit la lourdeur de la tâche qu'on dénonce depuis des années parce qu'on en pèle toujours plus sur le dos des profs, en lien également avec la complexification de la composition de la classe, hein, les besoins des élèves sont de plus en plus variés, qui nécessitent plus de temps, puis on a de moins en moins de bras pour soutenir le personnel. Puis j'ajouterais, ben par-dessus tout ça, parce que c'est nécessaire de le mentionner, le dossier des violences et des incivilités là qui viennent souvent là faire déborder le vase quand le personnel vient à penser à quitter la profession.
Il y a une certaine époque où on parlait que l'exode se faisait sentir auprès des jeunes qui quittaient après 5 ans de carrière. Est-ce que cette période-là diminue? Est-ce qu'il y a encore de plus en plus de jeunes qui quittent parce qu'ils se rendent bien compte que c'est de plus en plus difficile?
C'est sûr que les données remontent toujours là dans le temps. Donc, on n'a pas là nécessairement les données précises là année après année, mais n'en demeure pas moins que le contexte entourant la fuite ou l'exode de la profession pour les 5 premières années, on est toujours dans les mêmes eaux que par le passé. Là, on parlait d'environ 20% facile, de 20-25% de nouveaux membres du personnel qui quittent. L'enjeu maintenant, c'est dans le milieu. Dans le vif de la carrière, là, où les gens ont trouvé leur repère, où ils ont expérimenté peut-être différents niveaux, se sont développés une expertise, et là, confrontés à cet alourdissement de tâches-là, puis à des impossibilités de l'alléger, cette tâche-là, ben, décident, souvent à regret, parce que c'est pas parce qu'ils n'aiment plus enseigner, c'est tout ce qui est autour de l'enseignement, notamment. Fait que là, décide de quitter, puis il est là l'enjeu. Des gens qui sont à 15 ans, 20 ans d'ancienneté, qui décident de quitter, ben ça, c'est des forces vives du réseau qu'on perd, là.
Est-ce qu'on a des données récentes pour ce qui est du territoire du Centre de services scolaires des Samars?
Je vais vous dire non, pour la simple et bonne raison que le ministère a de la difficulté à colliger ces données-là. Donc, actuellement, on a un point de vue national où le ministère n'est pas en mesure non plus, puis ça, je tiens à vous le mentionner, là, de suivre le parcours de toutes les personnes qui détiennent un brevet. Là. Donc, toute personne qui sort avec un diplôme d'enseignement là, qui est padé, là, qui est identifié comme enseignant, ben le ministère, il ne sait pas où ils sont, puis il ne sait pas où ils s'en vont, puis c'est quoi leur parcours de vie professionnelle. Fait qu'imaginez si après ça, on complexifie davantage la quête de données avec une lunette locale. Puis j'ajouterais qu'au niveau local, ça fait longtemps que nous, on questionnait le centre de service scolaire des Samars pour qu'il fasse des entrevues de départ. On les questionnait à savoir quels sont les motifs derrière ce départ-là. Puis lorsque le ministre de l'Éducation, là, Bernard Drainville, avait demandé au centre de service de le faire, et là, tout d'un coup, le centre de service scolaire des Samars avait daigné se poser des questions. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces données-là? Puis évidemment, ils ne nous sont pas communiqués, là. Mais force est d'admettre que, en tout cas, entre vous et moi, aujourd'hui, le 27 octobre 2025, j'ai pas vu de grands changements de paradigme, autant au niveau local qu'au niveau national, pour sauvegarder l'honneur de la profession enseignante.
Est-ce qu'on comprend que les syndicats d'enseignants sont contraints de revendiquer sans outils?
Oui, c'est des données fines qu'on n'a pas là entre nos mains, mais n'en demeure pour moi que les gens qui nous appellent en détresse, les gens qui... Puis on voit passer les démissions là via notre courrier électronique, via notre documentation à l'interne. On a des impressions, puis ça va bien au-delà. Rappelez-vous, on a déjà eu des échanges sur est-ce qu'il y a plus de gens qui quittent en prévision de la négo parce qu'on annonçait des coupures au REGA. Ben, il y a des gens qui ont quitté. Mais est-ce qu'on est nécessairement en mesure de les associer? La réponse à ça, c'est non. Mais une chose est certaine. L'augmentation du nombre d'enseignantes et d'enseignants en arrêt de travail, l'augmentation du nombre d'enseignantes et d'enseignants qui se font violenter physiquement et psychologiquement sur une base quotidienne, ça, c'est indéniable. Indéniable à un point tel que on est toujours en attente au centre de service scolaire des Samars. Là, rappelez-vous l'échange qu'on a eu l'année dernière sur la fin de la politique sur la violence envers le personnel enseignant. C'était censé arriver. Ben, on est toujours en attente de travaux entourant la dite politique. Fait qu'il faut être en mesure de rendre la profession attractive. Puis, en FSE, ben, on a proposé des initiatives au gouvernement pour justement être en mesure de rendre cette profession-là enseignante intéressante pour les générations à venir, parce que les nouveaux arrivants ne sont pas en nombre suffisant pour, évidemment, suppléer au départ. Puis ça a été déposé l'année dernière au printemps. On n'a toujours pas eu de nouvelles au niveau national, puis il y aura une relance auprès de Mme Lebel afin de justement prendre à bras-le-corps l'enjeu de la rareté de main-d'œuvre.
En terminant, je vais y aller d'une comparaison et vous me direz si je fais fausse route, mais je vais comparer les enseignants aux médecins. Clairement, ce sont les conditions de pratique de votre profession qui font en sorte qu'il y en a plusieurs qui désertent. Craignez-vous que le gouvernement impose comme aux médecins certaines mesures contraignantes?
Effectivement, parce que, un, si on se trouve dans le même contexte, un déni clair de démocratie, un gouvernement majoritaire qui a été élu par 40%, près de 40% des électeurs, mais qui représente environ 28% de l'ensemble des électeurs électrices potentiels au Québec, qui adopte sous baillon des projets de loi de la sorte, sans étude détaillée de leur projet de loi, puis qui viennent attacher les mains et les pieds du corps médical. On veut pas avoir ça dans le cadre de l'enseignement. Demain matin, si ça devait se produire, on l'a déjà vu avec les multiples attaques depuis la dernière année de projets de loi anti-syndicaux, mais qui portaient notamment une attaque frontale ou une marque enseignante. Reste à voir comment ce gouvernement-là va décider de discuter avec les forces vives du terrain. Parce que je suis obligé de vous dire que si on n'arrête pas de mentionner dans les dernières semaines et dans les derniers mois que les syndicats sont trop puissants, là, ben, je vais inviter les parties patronales de ce monde là, à nous identifier clairement dans tous les dossiers de relations de travail, mais aussi les dossiers d'ordre sociétal qui ont évidemment un enjeu majeur sur le quotidien de tout le monde. Qu'est-ce qui provient des syndicats trop puissants? Et à ça, là, il y a personne qui va être capable d'identifier quelque chose parce que nous, on propose. Puis ensuite de ça, ça sera au gouvernement de mettre le tout en marche. Mais malheureusement, ils font comme s'ils détenaient la vérité, sans réellement, puis j'insiste, réellement considérer la voix de celles et ceux qui représentent le personnel enseignant, donc celles et ceux qui font l'école.
Mathieu Lessard, voilà, c'est le président du syndicat de l'enseignement du Lanaudière. On parlait, entre autres, là, de ces enseignants qui décrochent de plus en plus de la profession. Et c'était le cas dans un article dans le journal de ce matin, là, d'une enseignante en Montérégie qui a carrément décidé de quitter la profession là, après avoir reçu là, des menaces de mort sur les réseaux sociaux.
Lanaudière PM. Affaires municipales.
Ouais, ben, la multitude de règlements est un frein au développement économique des villes. C'est ce que certaines réglementations en annulent d'autres. Ça devient vraiment compliqué. Ce qui fait qu'en bout de ligne, la facture des projets municipaux grimpe tout le temps. Et François Morin en parle avec le maire sortant de Mascouche et président de l'Union des municipalités du Québec, Guillaume Tremblay.
Guillaume Tremblay, aujourd'hui avec votre consoeur de Longueuil, Mme Fournier, vous y allez d'une sortie à l'endroit du gouvernement et surtout à l'endroit des multiples règles de fonctionnement qui font en sorte qu'on est freiné dans la réalisation de projets et en bout de ligne, ben, ça devient plus coûteux.
Exactement. Donc, ce matin, dans la presse, avec ma collègue de Longueuil, ce qu'on vient stipuler, c'est qu'il y a des normes présentement au Québec qui mettent vraiment de la lourdeur et des frais exorbitants sur les montants qui sont payés par les ordres publics, que ce soit les villes, mais aussi par la part du gouvernement. Donc, ce qu'on vient dire, c'est que peut-être il serait intéressant de revoir ces normes-là, puis de s'assurer de qu'ils ne contreviennent. Parce que des fois, vous avez des normes qui vient mettre en péril une autre norme. Donc, des fois, il y a deux normes qui quand vous les jumelez, mais viennent justement à contrario. Donc, des fois, c'est un peu loufoque là, ce qu'on peut vivre, le monde municipal, de un. Mais de deux aussi, toutes ces normes-là amènent des délais exorbitants, très longs, et ça fait en sorte que les coûts année après année après année explosent. Et j'en avais fait la démonstration ici même avec ma ville de Mascouche, là. Une bretelle depuis 2019 qu'on a lancé ce chantier-là, cette grande réflexion-là de faire une bretelle. Quand on est passé en 2019, on était à peu près à 2 millions. Puis aujourd'hui, on est rendu à au-delà de 5 millions. Donc, vous voyez qu'avec les années, ben, les coûts explosent. Et c'est un peu ce qu'on a voulu mettre de l'avant.
Ça s'explique comment? Est-ce que c'est parce que ça, effectivement, là, certains projets peuvent impliquer plusieurs ministères et on se parle pas?
Ben, plusieurs normes, on s'est rendu compte que plusieurs normes sont en lien avec l'environnement. Donc, de notre côté, clairement, des fois, une norme environnementale vient mettre en péril une autre norme environnementale. Donc, c'est un peu pourquoi là qu'on se dit, puis comme je mentionnais avec Catherine Fournier, on n'est pas nécessairement des normes plus sévères dans certains cas, mais il y a peut-être des normes là qu'au Québec, le dollar investi pour atteindre la norme, est-ce qu'il en vaut vraiment la chandelle? Donc, tu sais, c'est des questions qui se posent, puis c'est de là que l'Union des municipalités du Québec, depuis au moins 2 ans, on demande d'avoir un chantier, une grande réflexion, un sommet sur les donneurs d'ouvrage au Québec, parce que les coûts sont exorbitants. Puis là, les normes, ça fait partie d'un facteur. Puis on est en étude présentement. On a commandé à RCGT, à Raymond Chabot de Grant Thornton, une étude justement sur les coûts de construction au Québec. Ça a été fait par l'UMQ. Puis ça, c'était le premier volet. Puis vous allez en entendre parler amplement au cours des prochains mois de cette étude-là, qui d'ailleurs vient mettre de l'ampleur sur notre demande là, de revoir le chantier sur la fiscalité municipale. Parce que clairement, avec le coût des contrats, des mandats qui sont donnés année après année, ben on n'est plus capable de faire seulement avec la taxation municipale, ça fonctionne plus. Donc, comme on dit, tout est dans tout, puis vous n'avez encore un exemple aujourd'hui.
Cette étude-là de Raymond Chabot Grant Thornton est en cours de réalisation ou a été déposée?
Dans le fond, on a eu reçu l'étude préliminaire. Il reste quelques informations à aller chercher. Puis je vous dirais que dans à peu près un mois et demi, on va avoir l'étude finale, l'étude complète, qui va être partagée avec l'ensemble de nos membres, puis bien sûr, rendue publique aussi par après.
C'est donc dire que le gouvernement aura fort à faire là, d'ici l'échéancier électoral de octobre 2026 pour répondre à vos demandes.
Ben moi, je vous le répète que comme président de l'Union des municipalités du Québec, j'ai mis le chantier de la fiscalité de l'avant-plan. Pourquoi? Parce que je vous le répète, là, il y a 40 ans puis aujourd'hui, mais juste la taxation municipale, ça ne fonctionne plus, malheureusement. Donc, c'est pour ça qu'il faut justement revoir. Puis moi, j'ai hâte d'entendre, oui, le parti au pouvoir, mais l'ensemble des partis politiques qui sont aptes à bientôt pouvoir prendre le pouvoir, ben, des ententes sur l'argumentaire qu'on va mettre de l'avant, mais surtout leur prise de position.
C'était le maire sortant de Mascouche et président de l'Union des municipalités du Québec, Guillaume Tremblay.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Métropolitaine-Est pour Charles de Gaulle, ça se présente très bien. À peine un peu dense, secteur du boulevard Henri Bourassa, traversée facile vers la rive nord, Repentigny. On circule sans problème sur la 40 Est, Pont-le-Gardeur. Un petit peu plus nombreux à partir de la rue Notre-Dame. Ouais, je remarque là, que c'est quand même assez dense. La traversée, bon, nombreux sur le Gardeur, mais quand même, ça va pas si mal. L'approche est facile par la rue Sherbrooke. 25 Nord, secteur de la jonction avec la 440 du côté de Laval, un petit peu plus nombreux, mais la traversée est facile vers Terrebonne, le secteur de l'Île-Saint-Jean, ça va très bien. Pont Sophie-Masson circule sans entrave et finalement autoroute 640, ça se passe bien dans les deux directions entre la 25 et la 40. Dans un instant, les nouvelles avec Pierre Jubinville.
Bonjour, c'est Kim de Joliette Nissan. Découvrez pourquoi Nissan est la marque numéro 1 pour la qualité des véhicules neufs selon J.D. Power. Pendant la liquidation totale, prenez le volant d'un Kicks Play S 2025 en location 60 mois à partir de seulement 76 $ plus taxes par semaine sans aucun compte initial chez Joliette Nissan.
Devenez membre à vie au coût de 20 $ à la coopérative funéraire de Matawini-Montcalm et obtenez 10% de rabais sur tous nos produits et services. La coopérative funéraire de Matawini-Montcalm, 450-886-3763 et 450-839-3450.
Vous avez des nouveaux services à offrir? Un talent à partager? Des conseils à donner? Des chiens à promener, des massages à donner, des prothèses à fabriquer. Vous avez une bonne idée. Vous voulez vous lancer. Informez-nous, on le fera savoir. Venez vous faire voir. Visitez notreentourage.ca pour voir.
Vous êtes propriétaire d'une entreprise et avez à cœur de bien la protéger? Promutuelle Assurance est là pour ça. Faites comme plus de 60 000 entreprises au Québec. Profitez d'un allié de confiance là pour ça. Promutuelle Assurance est là, 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 là.
Diane Monette, audioprothésiste, est à votre écoute depuis 1997. Son équipe est à l'écoute de vos besoins afin de prendre soin de vous adéquatement. Elle vous offre des services professionnels ainsi que des produits audioprothétiques appropriés à la fine pointe de la technologie afin de répondre à tous vos besoins auditifs. Vous croyez avoir besoin d'un test d'audition? Le dépistage auditif est offert sans frais jusqu'au 31 décembre 2025. Diane Monette, audioprothésiste, 136 Boulevard Antonio Barrette à Notre-Dame-des-Prairies. Prenez rendez-vous maintenant au 450-759-9939.
Je vous invite à être à l'écoute des après-midi de Claudine pour découvrir un concours exclusif aux membres de CFNJ en collaboration avec Son X Plus Joliette. Je ne vous en dis pas plus, soyez avec moi, soyez à l'écoute du lundi au jeudi de 13h à 16h dans les après-midi de Claudine pour tout savoir sur le concours Son X Plus Joliette, exclusif aux membres de CFNJ.
. 16h33, salut Pierre Jubinville.
Bonjour Claude.
Il n'y aura pas de nouveau scrutin dans Terrebonne, du moins pour le moment, parce que ça pourrait peut-être se rendre en Cour suprême.
Justement, le Bloc québécois, Claude, a 8 jours pour en appeler devant la Cour suprême. Toutefois, aujourd'hui, aucun commentaire, pour l'instant du moins. Souvenons-nous que le 28 avril, le Bloc québécois donc a contesté le 28 avril, à l'issue du dépouillement judiciaire, la libérale Tatiana Auguste, qui est députée, l'a bête emportée par une seule voix sur la députée sortante, Nathalie Sinclair-Desgagnés. On s'appellera qu'un fonctionnaire a avoué avoir écrit son propre code postal sur les bulletins de vote postaux.
Ben oui.
Ce qui fait en sorte que certaines ne se sont jamais rendues à bon port.
La loi 2 sur les conditions de travail des médecins continue d'alimenter la colère des médecins.
Oui, toujours dans le fond de la gorge des médecins. L'Association des médecins omnipraticiens Laurentides-Lanaudière critique le ministre Dubé. En plus de lier la rémunération des médecins à des critères de performance, elle impose des contraintes financières à ceux et celles qui tenteraient d'aller pratiquer ailleurs. Sur 5 ans, l'enveloppe globale de rémunération sera donc réduite. On écoute la présidente de l'association, la docteure Lynn Couture.
Vous savez, c'est les juristes et c'est le monde du ministère qui font un projet de loi. Je suis convaincue qu'il ne l'a pas lu, puis c'est juste faire donner les grandes lignes, là, parce que s'il l'avait lu, il aurait vu qu'on baisse de 33%. Il aurait vu qu'il n'y a rien de spécial pour les médecins. Les gens ne nous croient pas quand on leur dit ça. Quand on leur montre, ils disent « ben voyons donc ». Aucun bon sens. Mais c'est écrit noir sur blanc. J'invite les gens à le lire, pas écouter le gouvernement qui ne l'a pas lu.
Et même si des centaines de médecins ont manifesté hier soir leur mécontentement lors de son passage à l'émission Tout le monde en parle, le ministre Dubé ne regrette pas d'avoir imposé sous baillon son projet de réforme. Il affirme qu'il est normal que de tels changements provoquent autant de grogne.
Demain, je vais préparer un vrai ou faux. Je vais avoir un webinaire dans quelques jours qui va venir spécifiquement parler aux gens des GMF, spécifiquement parler aux journalistes qui ont demandé un deuxième briefing parce que c'est complexe. Mais ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que j'ai pas d'autre choix que de dire ça, là, cette vision-là qu'on a, elle est non négociable. Puis c'est de bien l'expliquer au cours des prochains jours, prochaines semaines.
Et puis malgré l'adoption du projet de loi par Baillon, le PQ appuierait le principe, du moins, là, du projet de loi.
Oui, n'est pas contre le principe, mais le chef du Parti québécois. Merci, Claude. Paul Saint-Pierre Plamondon, décidément. affirme que la loi spéciale est bâclée et truffée d'erreurs.
La réforme controversée du mode de rémunération des médecins imposée par la CAQ survivrait à un éventuel gouvernement du Parti québécois.
Notre message, c'est qu'il y a un changement du mode de rémunération. Le gouvernement a droit de faire ça.
Son chef Paul Saint-Pierre Plamondon y apporterait toutefois plusieurs correctifs.
Parce que ça a été fait tout croche, parce que le travail a été bâclé.
À commencer par des indicateurs de performance davantage orientés sur la qualité des soins.
On aimerait davantage que les incitatifs soient sur la qualité comme la quantité.
Le chef du PQ déplore avant tout le recours au baillon qui a forcé l'adoption de la réforme sans étude approfondie.
Dans quel univers parallèle on a choisi de traiter toutes ces questions-là en 5 heures, en plein milieu de la nuit?
Et souhaite la modifier en s'inspirant des modèles éprouvés ailleurs dans le monde.
Plus collé aux meilleures pratiques dans le monde, notamment la Suède, la France et la Colombie-Britannique.
Philippe Rodrigue, Comeau, Cogeco Nouvelles, Québec.
Et puis le nom de Jean-François Malo revient encore une fois dans l'actualité cette semaine, Pierre.
Oui, l'Agence du revenu du Canada qui cherche à l'interroger dans une histoire un peu complexe, une histoire de fraude impliquant la compagnie distribution Carflex. C'est un atelier de débosselage à Mirabel et dans lequel il est partenaire commercial avec le propriétaire Yvan Drapeau. Une brèche dans les systèmes de sécurité de l'ARC aurait permis un remboursement de 4 999 000 $ accordé à cette entreprise à faible revenu il y a 2 ans. Or, des documents obtenus par CBC et Radio-Canada indiquent qu'un remboursement de 5 millions aurait entraîné un examen supplémentaire manuel pour que le chèque soit émis. En bas de ça, c'est un remboursement automatique. Mm-hmm. C'est quand même des grosses sommes. Alors, Carflex a obtenu le remboursement en affirmant avoir payé des impôts sur un gros gain en capital. Et devant le tribunal, l'ARC allègue que la somme doit être remise car la firme n'avait pas droit à ce remboursement. Et Jean-François Malo a invoqué, lui, le privilège d'avocat-client pour éviter de répondre aux questions de l'Agence du revenu.
Un nouvel outil pour les jeunes autochtones.
Oui, le Centre d'amitié autochtone de la Naudière qui lance un nouvel équipement d'intervention auprès des jeunes 0-18 ans de sa communauté. On parle d'une caravane éducative. Michel Arnoine était sur place.
En opération 12 mois par année, la caravane offrira de l'aide aux devoirs, des ateliers éducatifs, des sciences d'orthopédagogie et même un espace pour se réchauffer par temps froid. Luc Parlavecchio, directeur santé, éducation et intervention sociale au Centre d'amitié autochtone, nous parle des professionnels qui utiliseront la caravane.
Une dizaine de personnes, qu'ils soient ergothérapeutes, orthophonistes, psychologues, etc. Donc ces personnes-là nous permettent de nous aider. Et puis nous-mêmes, on a une dizaine de personnes à l'intérieur, au CAL, qui peuvent aussi soutenir les enfants.
Jennifer Brazo, la directrice générale du Centre, nous indique les rayons d'action de l'équipement.
On va débuter à Joliette, dans les coins qu'on connaît un peu, puis aussi voir c'est quoi les besoins dans les régions un peu plus éloignées. On a un point de service aussi à Saint-Michel-des-Saints.
La caravane qui a coûté 75 000 $ se nomme Maskoussiwin, ce qui veut dire ours pour les valeurs de courage que l'animal représente. Michel Arnois, CFNJ Nouvelles.
Et Donald Trump est fâché.
Oui, fâché noir. Alors, il est piqué au vif par la campagne publicitaire diffusée aux États-Unis par l'Ontario qui visait à mettre de l'avant les désavantages des droits de douane. En mission à Kuala Lumpur, le premier ministre Mark Carney a été questionné à savoir si son homologue de l'Ontario avait fait une erreur en finançant cette campagne publicitaire.
Nous avons décidé de ne pas faire des publicités aux États-Unis, OK? C'était un choix. C'était évident pour nous de ne pas faire. Il a pris une décision différente de la décision du gouvernement du Canada qui est responsable pour cette relation.
Faut dire, Claude, que Doug Ford, lui, en a rajouté aujourd'hui. Mm-hmm. Il a prétendu que Mark Carney était bel et bien au courant de l'offensive publicitaire ontarienne.
Et la campagne publicitaire, soit dit en passant, se terminait là, aujourd'hui.
Aujourd'hui,
là.
Ouais. C'est ça.
Et en terminant, il y a l'ouragan Melissa qui fonce tout droit sur la Jamaïque.
Oui, il pourrait être le plus violent que l'île ait connu depuis des décennies. Son cœur devrait l'atteindre dès ce soir et la traverser mardi. Cuba et les Bahamas sont aussi sur sa trajectoire pour la suite.
Merci Pierre Jubinville.
Bonne soirée.
Il est 16h40.
Au 99.1 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM avec Claude Fournel.
CFNJ 99.1 88.9.
Lanaudière PM communautaire.
Le regroupement des organismes québécois pour hommes agressés sexuellement amène jusqu'au 19 novembre une campagne de sensibilisation à travers le Québec. Et c'est sous le thème « Parler, ça change quoi » que vont être présentées là, principalement sur les réseaux sociaux les différentes capsules vidéo qui présentent des témoignages de 4 hommes qui ont vécu une ou des agressions sexuelles. Et le directeur général de cet organisme qu'on appelle le ROCA, c'est-à-dire le regroupement des organismes québécois pour hommes agressés sexuellement, Samuel Dussault, échange sur le sujet, un sujet qu'il faut dire qui est encore tabou, là, avec François Morin.
On est en pleine campagne de sensibilisation aux violences sexuelles qui sont commises à l'endroit des hommes. C'est pas un sujet qui est vraiment toujours dans l'actualité, là. Il y a encore des tabous là, autour de ça.
Oui, tout à fait. Là, c'est encore un sujet qui mérite d'être plus visible, plus d'en parler. C'est pour ça qu'on fait cette campagne-là, qui est la première campagne de sensibilisation là chez les hommes là, au Québec de nature provinciale.
De quelle façon va se décliner la campagne?
Ben, cette campagne-là se déroule principalement sur les réseaux sociaux où qu'on a capté 4 témoignages d'hommes qui ont vécu des agressions sexuelles. C'est sous le thème « En parler, ça change quoi? » Donc, ils répondent un peu à cette question-là au travers de leurs témoignages. Puis les vidéos sont diffusées en ligne ou qu'on va payer de la publicité sur les plateformes comme Facebook, Instagram, Reddit, LinkedIn, afin là, de rejoindre plus facilement, à moindre coût, là, bien entendu, que faire des campagnes de télévision, toute la population là, au Québec. Là.
On dit toujours qu'il vaut mieux prévenir que guérir, et prévenir, ça passe peut-être par la dénonciation, mais guérir, ça passe par l'ouverture. Il faut se dévoiler.
Oui, c'est ça les objectifs principaux de la campagne. C'est un, donner une voix à ces hommes-là, d'encourager la demande d'aide, puis aussi présenter le réseau d'organismes spécialisé du regroupement là, du ROCAS qui s'étale là, pratiquement à toutes les régions maintenant. Donc, peu importe la région au Québec, il y a un organisme. Donc, dans votre région, dans la Lanaudière, c'est le MITAS là, qui a 2 points de service à Joliette puis à Repentigny où ils ont engagé justement quelqu'un récemment là, pour pouvoir accueillir les demandes d'aide des hommes qui ont vécu un abus sexuel.
Dans le contexte actuel où c'est vraiment pas facile d'obtenir des services en santé et services sociaux, est-ce qu'effectivement là, on a les moyens de nos ambitions?
C'est une bonne question. C'est toujours une question de priorité aussi. Ça va au-delà de plein d'enjeux qu'on parle justement en santé actuellement, mais je crois que au niveau de la prévention, de donner de l'aide à ces hommes-là, ça a un coût d'opportunité. Si on donne pas ces aides-là, il y a plein de coûts sociaux à pas aider les personnes qui ont vécu de l'abus sexuel parce qu'ils vont avoir des problèmes de dépendance, des problèmes de relationnels. Il y en a beaucoup qui peuvent les empêcher de retourner sur le marché du travail. Donc, tout ça, toutes les conséquences que ces personnes-là vivent, ben un aussi un coût social. Puis je crois qu'investir dans les services en violence sexuelle, comme qu'on a fait justement dans les dernières années, ben ça permet aussi de sauver de l'argent sur d'autres aspects de notre vie sociale, d'autres aspects de la santé, des services sociaux pour toutes ces personnes-là.
On parle souvent dans l'actualité de cas qui peuvent remonter à 30, 40 ans, même plus, mais ça peut effectivement, pour aider les hommes, d'abord le principe c'est d'en parler, de se dévoiler, et ça peut être des agressions là, que, survenues tout récemment.
Oui, on entend beaucoup parler justement de cas où que c'est des personnes qui avaient vécu ça à l'enfance. Ça reste une majorité de ce qu'on sait pour le moment chez les hommes, que la plupart des abus ont été faits à l'enfance, mais bien entendu, là, il peut en avoir aussi à l'âge adulte. T'sais, par exemple, il y a eu deux études importantes qui ont été faites là, dans les cégeps et toutes les universités du Québec. Puis, à la fin des résultats, ça donnait qu'à peu près un homme sur quatre, donc un étudiant sur quatre, avait vécu de la violence sexuelle pendant leur parcours. Donc, ça, c'est à l'âge adulte. Ça nous montre que quand les jeunes aussi sont plus sensibilisés, quand la population est plus sensibilisée, peut-être qu'ils vont plus en parler puis plus reconnaître que ce qu'ils ont vécu, c'était une agression sexuelle.
En terminant, je pense qu'il serait peut-être pertinent de rappeler peut-être certaines coordonnées pour les gens qui, justement, voudraient se dévoiler ou voudraient se libérer là, de ce fardeau-là.
Oui, ben vous pouvez tout d'abord aller sur le site du ROQHAS, qui est le roqhas.org, pour consulter soit la campagne ou d'aller voir tous les services qu'il y a au Québec. Sinon, dans votre région, comme j'avais dit tout à l'heure, c'est le MITAS, qui est le milieu d'intervention et de thérapie en agression sexuelle, qui peuvent offrir des services là, à Joliette puis à Repentigny, là, que vous pouvez aller voir sur le mitas.ca ou trouver les informations là, sur notre site web là, avec leur numéro de téléphone et leur adresse courriel.
Bon, on tentait de briser des tabous là sur les agressions sexuelles envers les hommes. C'était Samuel Dussault, il est directeur général du regroupement des organismes québécois pour hommes agressés sexuellement, le ROQHAS. Alors, je vous rappelle l'adresse du site web, là, ROQHAS, ROQHAS.org. Dans un moment, avec Pierre Paquette, on va raviver les passions du référendum de 1995.
Imaginez un party de Noël au cœur de la nature, à l'auberge La Barrière, pour environ 35 $ par personne, célébré dans une atmosphère unique. Repas 3 services aux saveurs des fêtes, cocktails festifs, thématiques adaptées à vos goûts et à votre budget. Tout est pensé pour créer des souvenirs magiques. Pour une soirée sans souci, restez dormir sur place et profitez pleinement du moment. Réservez dès aujourd'hui au 450-884-5748. Auberge La Barrière, au 1000 chemins du Club de La Barrière, à Sainte-Émilie de l'Énergie. Un Noël féerique vous attend.
Vous cherchez un entrepreneur pour tous vos besoins en climatisation, réfrigération, chauffage ou ventilation? Ne cherchez plus. Turcotte Réfrigération de Saint-Cuthbert, c'est plus de 30 ans d'expertise à votre service partout dans la Naudière et les environs. Résidentiel ou commercial, l'équipe expérimentée de Turcotte Réfrigération s'adapte à tous vos besoins, sans oublier un service courtois et toujours personnalisé. Faites confiance à une entreprise familiale vous offrant les meilleures marques, telles que Gree, Mover et plusieurs autres. Turcotte Réfrigération, 450-836-7009.
Vendre ou acheter une propriété vous fait peur?
Ah ben, c'est simple. Contactez-moi.
Simon Mercier, courtier immobilier résidentiel.
Et commercial.
Royal Lepage Partenaire, agence immobilière.
Son X Plus Joliette est fier de vous accueillir au 58 rue Baby depuis 2005. Fondée en 1981, notre entreprise met à votre service de l'expertise en système de son, cinéma maison, audio multipièce, domotique, sécurité, caméra de surveillance, réseau informatique, téléviseur et installation professionnelle. Nous offrons des solutions sur mesure conçues pour répondre aux besoins spécifiques de votre maison ou de votre entreprise. Faites confiance à Son X Plus Joliette, toujours prêt à surpasser vos attentes. SonXPlusJoliette.com.
À CFNJ, voici le commentaire de Pierre Paquette.
Salut Pierre, ça va bien?
Salut, oui, ça va toi?
Ah oui, ça va bien. Référendum de 1995, je m'en souviens comme si c'était hier. On souligne d'ailleurs cette semaine les 30 ans de ce référendum qui se tenait le 30 octobre 1995. J'étais à la radio dans les Laurentides à cette époque-là et c'est tellement frais dans ma mémoire, je te jure, là, c'est comme si c'était hier ou peut-être même l'an passé. Là.
Je pense que tout le monde qui a participé de près ou de loin au référendum de 95 en garde un gros souvenir. Moi, je me rappelle que le soir du dévoilement des résultats, j'étais au Palais des Congrès avec ma fille qui avait 12 ans à l'époque. Elle a 42 maintenant. Et puis, quand on a vu les résultats arriver...
Là, attends un petit peu. Elle avait 12 ans, elle en a 32. Ça marche pas,
non, 42.
Ou 42,
oui. Oui, c'est ce que je me suis mal exprimé. Elle va être bien contente que je l'ai rajeunie un peu. Mais à 12 ans, elle était folle de joie quand les résultats commençaient à sortir. Ouais. Aux Îles-de-la-Madeleine, la Gaspésie, la Côte-Nord. Là, évidemment, au fur et à mesure que la soirée avançait, malheureusement, on voyait, surtout quand on est arrivé dans la région de Québec, que ça diminuait. Mais quand même, on a goûté presque au pays. Puis c'est ce que je lui ai dit ce soir-là. J'ai dit, tu vois, là, qu'est-ce que ça serait de fonder, de créer notre propre pays? Ben, elle y a goûté, puis elle est restée souverainiste encore aujourd'hui. Elle est très active. Fait que, moi, j'en garde un souvenir très vivant, puis j'espère qu'on aura la chance de se reprendre.
Il y a la veuve de Jacques Parizeau, Lisette Lapointe, qui a fait paraître ces jours-ci un bouquin qui se nomme « De combat et d'amour » aux éditions de l'Homme, où elle a l'occasion justement de revenir sur ce référendum de 1995. Elle l'a vécu de près aux côtés de Jacques Parizeau. Et aussi l'occasion de revenir sur cette fameuse phrase maladroite de Jacques Parizeau. Là, il avait lancé, on se souvient, lors de la défaite, que on a perdu à cause de l'argent puis des votes ethniques.
Oui, des votes ethniques. Et puis, je pense que Jean-François Lisée a aussi, en fin de semaine, dans le Devoir, dans sa chronique, clarifié les choses. Lui, c'est lui qui avait rédigé le discours. Je ne dis pas qu'il avait rédigé cette partie-là, parce qu'on sait que M. Parizeau pouvait très facilement improviser.
Oui, mais je pense que le discours, il l'avait rangé dans sa poche, là, puis il l'avait à peine un peu lu, il l'a rangé dans sa poche et il a improvisé, oui.
Mais il a toujours expliqué, puis il me l'a expliqué à moi personnellement, là, de vive voix, que ce qu'il visait, c'était l'establishment des communautés ethniques, les associations, le congrès italien, le congrès grec, le congrès juif, où les directions avaient appelé leurs membres à voter, ben, le membre de leur communauté, à voter non.
C'est ça, ça s'est passé une semaine avant le référendum. C'était des représentants des communautés grecques, italiennes et juives aussi. Et il y avait, parmi les membres, là, il y était 400 000. Alors, on a encouragé ces 400 000 personnes-là à voter non. Et là, c'est pour ça que Jacques Parizeau avait lancé l'histoire du vote ethnique. Lisette Lapointe tente de défendre son défunt mari, Jacques Parizeau, en disant que non, Jacques Parizeau n'était pas raciste, là, c'est pas ça, là.
Non, il n'avait pas dit les votes ethniques, il avait dit des votes ethniques.
Oui, oui.
Et c'est ça qu'il condamnait. La formule est prêtée à interprétation, puis évidemment, les médias anglophones ont sauté sur l'occasion, puis ont essayé de créer une espèce de mythe à l'effet que M. Parizeau était xénophobe, ce qui n'était absolument pas son cas. Mais c'est sûr qu'il a prêté flanc un peu à cette manipulation-là des médias. Mais je pense que maintenant, tout le monde qui a connu M. Parizeau de proche comprend très bien que ce qu'il avait en tête, c'était vraiment le comportement des directions des communautés ethnoculturelles qui avaient balayé du revers de la main la possibilité que le Québec devienne un pays indépendant. Il avait fait le jeu, finalement, d'Ottawa puis des fédéralistes à ce moment-là. Bon, alors évidemment, on est toujours à discuter sur sa phrase, mais je pense que maintenant, ça fait plus aucun doute que ce qu'il avait en tête, c'était vraiment les directions de ces communautés ethnoculturelles.
Il y a 30 ans, jour pour jour, le 27 octobre 1995, c'était le fameux Love-In à Montréal.
Oui. Ben ça, évidemment, ça pose un gros problème. D'abord, c'est la façon dont cette opération-là a été financée, qui est totalement, en grande partie, complètement illégale.
Il y avait des avions, rappelons-le, des avions Nolisée qui partaient de l'Ouest canadien, qui s'en venaient à Montréal, qui étaient bien remplis de monde, qui n'avaient pas payé pour prendre l'avion, là, pour venir nous dire qu'ils nous aimaient.
Oui, puis même chose pour les trains avec Via Rail, des billets de gracieuseté pour venir à Montréal, justement, pour dire qu'ils nous aimaient. Mais tout ça était contrevenait à la loi québécoise. C'est là où on voit qu'il y a vraiment une faiblesse. Je sais pas si depuis, on a des juristes qui ont pensé à la façon de colmater ces brèches-là, mais véritablement, c'était une utilisation frauduleuse de fonds extérieurs à la campagne référendaire. Parce qu'évidemment, le camp du oui comme le camp du non avait un financement plafonné à un certain niveau pour permettre justement l'égalité ou l'équité, en tout cas, des chances entre les différents camps. Et ça a été complètement bafoué par Jean Chrétien et puis le gouvernement fédéral.
Et ce qu'on apprend dans le bouquin de Lisette Lapointe, c'est que suite à cet événement-là, le chanteur Claude Dubois a eu l'idée de remplir le Stade olympique avec un méga spectacle où tous les artistes iraient bénévolement chanter. Et on n'avait pas assez de temps pour l'organiser, ce concert-là.
Ben non seulement il n'y avait pas assez de temps, mais justement, M. Parizeau puis les organisateurs du camp du oui avaient des scrupules à utiliser de l'argent qui dépasserait le montant prévu par la loi. Parce qu'on était rendu à la fin de la campagne et pratiquement tout avait été dépensé. Puis on voulait respecter scrupuleusement l'esprit et la loi en tant que telle. Et c'est une des raisons qui avait amené M. Parizeau à... Et évidemment, je pense qu'il y avait aussi la question de la logistique, le temps, tout ça. Mais c'était aussi des considérations de respect de la loi référendaire, ce qui n'a pas été le cas du côté du camp du non.
Quand on revient au Lovin et justement, à ce dépassement des coûts de financement pour la campagne du non, il y a eu un bouquin qui a été publié il y a quelques années de ça, qui par l'auteur Robin Philpott, qui s'appelle Le référendum volé. Et ça, on vous invite je vous invite à aller lire ça parce que c'est clair, il est question de ça justement là.
Ben oui, il est question de ça, mais même pire que ça, un ancien premier ministre du Nouveau-Brunswick, Lord, nous a avoué candidement avoir voté lorsqu'il était étudiant à l'Université Bishop, avoir voté lors du référendum alors que c'était complètement illégal. Il était même pas citoyen québécois.
C'est ça, ouais.
Alors, c'est pour dire à quel point, du côté des forces fédéralistes, on était sans scrupules, et je pense qu'on l'est malheureusement encore, sans scrupules quant aux moyens à utiliser pour combattre l'option souverainiste. La fin justifie les moyens, dans leur cas, ça a été vrai, puis probablement que ça sera encore vrai. Donc, il faut s'assurer que la loi québécoise soit la plus solide possible, même si on ne sera pas en mesure d'empêcher toutes les fraudes, évidemment. Mais quand on pense qu'un ancien premier ministre du Nouveau-Brunswick se vantait d'avoir voté illégalement au référendum en faveur du non, je pense que ça montre à quel point les forces fédéralistes, lorsqu'il s'agit de battre l'option souverainiste, n'ont pas de scrupules.
Et ce qui a engendré par la suite, il faut le mentionner, la commission Gomery.
Oui, oui, là, c'était évidemment le scandale des commandites, c'est-à-dire l'utilisation des fonds publics pour faire la promotion l'unité canadienne, du camp fédéraliste. Et oui, effectivement, la commission Gomery a découlé du plan que Jean Chrétien a mis en place après le référendum pour gagner le cœur et l'esprit des Québécois par une campagne de commandite où on mettait bien en évidence le drapeau canadien, l'unité canadienne, etc. Et ça a débouché sur le scandale des commandites et la commission Gomery qui a amené les libéraux fédéraux au purgatoire pendant une dizaine d'années, là. Ben, il semble que ça a été oublié par plusieurs, mais avec M. Carnet.
Ce qui est resté dans l'imaginaire, ce sont probablement ces balles de golf de Jean Chrétien.
Oui, il y avait aussi des chapeaux de cow-boy. Ouais. Il y avait bien des gadgets. Il y avait juste les bobettes qui fournissaient pas, puis c'est à peu près tout. Mais c'est la commission Gomery est un travail acharné sur cette question-là. M. Gomery a fait un travail remarquable. J'espère qu'on en a tiré des leçons aussi.
Et en terminant, Pierre, est-ce que c'est cet échec référendaire-là qui t'a amené à te présenter en politique pour le Bloc québécois?
En grande partie, parce qu'à ce moment-là, il y avait les partenaires pour la souveraineté. Là, évidemment, je ne veux pas rappeler tout ça à vos auditeurs, là, mais il y avait une coalition syndicale. Et après le référendum, cette coalition syndicale-là, c'est un petit peu comme désagrégé tranquillement. Là. Moi, quand j'ai vu que du côté syndical, il n'y avait plus, de mobilisation possible concernant la question nationale, l'indépendance du Québec, c'est là que j'ai commencé tranquillement à penser à aller en politique. Je me suis retrouvé au Bloc québécois avec Gilles Duceppe dans la circonscription de Joliette en 2000. Je l'ai pas regretté parce que ça a été une très belle expérience. J'aurais aimé, évidemment, contribuer plus positivement encore à l'accession du Québec à devenir un pays. Mais peut-être que ce sera par chose remise à la prochain référendum.
On aura peut-être l'occasion...
Pour que le PQ gagne la prochaine élection.
On aura peut-être sans doute l'occasion d'en reparler cette semaine. Merci, Pierre Paquette.
De rien, à bientôt, bye.
Manquez pas dans un instant Nicolas Bellemare qui sera là pour vous présenter le 5 à 7 trad de CFNJ. Ici Claude Fournel, on se donne rendez-vous demain, on sera là à 16h pour un autre Lanaudière PM.